Depuis quelque temps, nous parlons des batailles de la vie et nous réalisons que les batailles, parler des batailles, c'est parler des preuves, comme nous l'avons dit depuis le début. Parler des batailles, c'est parler de combats. Parler des batailles, c'est parler des défis. Parler des batailles, c'est parler des problèmes. Parler des batailles, c'est parler des turbulences sur le chemin de la vie. Alléluia. Et nous avons vu que parfois, ce que nous voyons dans la vie n'est pas ce auquel nous nous attendions. Les choses auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas les choses auxquelles nous nous attendions. Mais nous devons les assumer parce que nous sommes engagés dans la bataille de la vie. Alléluia. Et nous avons également vu qu'une bataille, une vie sans bataille, ne peut accéder à la grandeur, ne peut accéder au manteau de Dieu, ne peut accéder à la main invisible de Dieu. Alléluia. Et une vie sans bataille ne peut pas s'installer au sommet de la grandeur. Chacun de nous mène une bataille, ou du moins mène plusieurs batailles. Alléluia. Quand je dis les batailles, comprenez que ça n'engage pas simplement un domaine de ta vie. Ça engage deux, trois domaines de ta vie. Parfois dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine marital, il y a des batailles. Tout vient en même temps. C'est ça que nous appelons les batailles. Alléluia. C'est ça que nous appelons les batailles. Et nous avons vu que, bien aimé, comportement, par nos erreurs, par nos fautes sur le chemin. Mais il y en a d'autres qui sont le processus de la vie. Alléluia. Qui sont le processus de la vie. Qui sont le processus de la vie. Je voudrais qu'on ouvre notre Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Écoutez ce que Paul va dire à Timothée. Le verset 18, je lis au nom de Jésus. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Alléluia. Tu combats le bon combat. 1 Timothée 6, allons au chapitre 6 à côté, le verset 12. Le verset 12 dit, combat le bon combat de la foi éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Est-ce qu'on peut s'asseoir, bien-aimé? Lorsque nous examinons, nous apprécions ce texte, bien-aimé, nous réalisons que chacun ici est engagé dans une bataille selon les prophéties que Dieu a déclarées sur ta vie. Alléluia. Autrement dit, toute prophétie de Dieu dans la vie d'un homme engendre des batailles. Alléluia. Engendre des batailles. Engendre des combats. Chaque fois que Dieu parle dans la vie d'un homme, la suite c'est la guerre. Alors, il est important pour nous de le comprendre rapidement. Paul dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, mon enfant Timothée, selon les prophéties. Tu as reçu des prophéties, tu as reçu des paroles, et depuis tu t'inquiètes pourquoi telle chose ne fonctionne pas, pourquoi les choses n'évoluent pas, pourquoi les choses ne rentrent pas dans leur accomplissement. Je croyais que lorsque Dieu va parler, ça va déclencher à la vitesse de l'éclair. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Dis à quelqu'un, combat le bon combat. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Ça veut dire qu'il y a deux types de combats dans la vie. Il y a le mauvais combat et il y a le bon combat. Il y a le mauvais combat, il y a le bon combat. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Que Timothée était sur le point de combattre le mauvais combat. Vous savez, le mauvais combat, c'est quoi? Le mauvais combat, c'est le combat des lamentations et des plaintes. Le mauvais combat, c'est le combat des murmures. Le mauvais combat, c'est le combat des bouderies de la vie. Vous voyez les gens, lorsqu'ils sont confrontés à cette bataille, ah, je n'avance plus. Si Dieu est Dieu, il n'a qu'à venir me délivrer ici. Tu vas rester là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je suis venu prophétiquement parler à des personnes qui sont engagées dans des batailles et qui croient que parce que Dieu a parlé, tout est censé arriver bien. Aucune grossesse ne commence et s'achève sans difficulté pour la mère. On va dire, ah, elle a bien accouché, mais le process, c'était pas facile. C'était pas facile. Des malaises, des difficultés à tous les coups. C'est ainsi la vie. La grossesse, c'est comme la semence de la prophétie de Dieu dans la vie d'un homme. De ta santé divine, tu portes la grossesse de ton élévation divine, tu portes la grossesse de ton établissement divin, mais tu dois passer par des tribulations. C'est pourquoi j'aime ce que les médecins disent lorsqu'on va accoucher une femme, on dit qu'elle a délivré. Tu délivres alors que ça veut dire que tu sors d'un combat. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu sors d'un combat. C'est pourquoi lorsqu'une femme va pour accoucher de son bébé, tout le monde reste en prière. On ne sait pas si elle va revenir. Parce que c'est un combat qui laisse des cadavres sur le chemin. Parfois l'enfant, parfois la mère, parfois les deux. Parfois même après la naissance, le père lui-même meurt. Qu'est-ce que nous en savons? Dis à quelqu'un, combat le bon combat. Combat le bon combat. Arrête de combattre le mauvais combat. Alléluia. Beaucoup de personnes croient qu'en boudant Dieu, ça va arranger leurs problèmes. Dieu n'est pas un homme. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Dis à quelqu'un que Dieu s'en fout de ta bouderie. Est-ce que tu savais ça? Je vous assure, Dieu s'en fout de ta bouderie. Regardez, Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos bouderies, c'est ça? Vos lamentations, c'est ça? Vos pleurs. Il ne répond qu'aux besoins, il ne répond pas aux lamentations. Est-ce que j'ai de quelqu'un? Alors, avant de continuer, bien aimé, je voudrais qu'on revienne un peu, parce que la dernière fois, nous avons entamé un point que nous n'avons pas achevé. Les cinq moyens pour gagner les batailles de la vie. Rappelez-vous, nous avons vu deux moyens. Le premier, prier et appliquer la parole de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Nous avons vu que rester concentré sur son objectif. Alléluia. Restez concentré sur son objectif. Ne pas se laisser distraire. Se laisser piéger dans les batailles. Alléluia. Troisième clé importante pour gagner les batailles de la vie. Sagesse. Amen. Choisis l'arme de la sagesse. Bien aimé. Salomon dit que la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Ecclésiastes chapitre 9, le verset 16. Tu dois être sage pour t'élever au-dessus de tes batailles. La sagesse, ça ne consiste pas à engager la force physique. La sagesse, c'est consiste la bataille. C'est naviguer sur ses batailles. La sagesse, c'est naviguer sur ses batailles. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est naviguer au-dessus de ses batailles, telle une pirogue. La pirogue se laisse conduire à des moments par la vague. Parfois, nous résistons aux vagues. Nous résistons aux complications. Nous résistons à certaines difficultés de vie. Or, Dieu nous demande, laisse faire. Laisse faire. Alléluia. Bien-aimé. Quatrième chose pour engager et réussir tes batailles de la vie, bien-aimé. Choisis de vivre heureux et prospère malgré les batailles. Alléluia. Choisis de vivre heureux. De vivre heureux. Psaume 144, le verset 15. Il dit, heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le la prospérité, le bonheur t'aideront à surmonter la douleur des batailles. Regardez dans le psaume 23, le dernier verset, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce habite dans ta maison. Le bonheur, la grâce habite dans tes affaires. Le bonheur, la grâce habite dans tes projets. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans les batailles, gagner les batailles, c'est choisir d'être heureux. Beaucoup croient que le bonheur est lié à l'éradication de ces problèmes. Ça n'existe pas. Tant que tu es sur la terre, tu auras des problèmes. À chaque niveau de gloire, il y a un nouveau niveau de problème. Alléluia. Le problème qu'un riche a, Alléluia. Je me rappelle de cette histoire qu'on nous raconte, qui allait prier. Un homme riche qui priait, « Oh Dieu, donne-moi le contrat de 10 millions. » Oh Dieu, donne-moi le contrat de 10 millions. À côté de lui, il y avait un type qui disait, Seigneur, 10 000, 10 000. Seigneur, 10 000. 10 000, ça règle mes problèmes. Et le riche s'est tourné, il a dit que mon frère, prends 10 000, tu quittes là-bas. Tu empêches Dieu d'écouter ma prière. Alléluia. Alléluia. Comment Dieu va descendre et donner 10? Prends 10 000, tu te dégages, pardon. Tu fais le bruit, Dieu n'entend pas bien ma prière. Dieu n'entend pas bien ma prière. Chacun a ses problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Le riche a un problème. Le pauvre a un problème. L'homme en bonne santé a un problème. L'homme en malade a un problème. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pour que nous soyons dépendants les uns des autres. Personne ne peut frapper sa poitrine et dire qu'il est à l'abri de tout. Ce n'est pas possible. Il y a encore quelques jours, le président Ali Bongo savait qu'il était président encore. Mais qui l'aurait dit que le lendemain, il devait se retrouver prisonnier dans sa propre maison? Personne. Même pas lui. Il nous a tous demandé de faire du bruit. On a composé même un chant avec. Les gens dansent maintenant ça. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Chacun de nous a ses batailles selon le niveau où il est. Et tu dois décider d'être heureux. Tu dois décider d'être heureux. Tu dois décider d'être heureux malgré la bataille. La joie est fonction d'une décision. La joie est fonction d'une décision. Paul dit, réjouissez-vous. Paul dit, soyez toujours en joie. Soyez. Il n'a pas dit, soyez en joie quand tout va bien. Soyez en joie quand vos problèmes sont résolus. Soyez en joie quand vous êtes sortis des batailles. Il dit, non, soyez toujours, toujours. Et regardez le mot toujours, ça veut dire quelle que soit la situation. La joie doit être prioritaire. La joie doit être prioritaire. La joie doit être prioritaire. Je prophétise le baptême de la joie sur toi. Le baptême de joie sur ta vie. Le baptême de joie sur tes affaires. Le baptême de joie dans ton cœur. Quel que soit les vents, quelles que soient les tempêtes, sois en joie. Sois en joie. Sois en joie. Au nom de Jésus. Personne ne doit voler ta joie. Tout ennemi de ta joie est ton ennemi. Quiconque combat ta joie, combat-le. Alléluia, combat-le. Rappelez-vous, lorsque nous finissions, le prophète Oda a dit ici, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Il a dit, pour ne pas perdre sa joie, prie. Pour ne pas perdre sa paix, prie. Prie, prie. Il dit, je prie pour ne pas perdre ma joie. Je prie pour ne pas perdre ma paix. Je prie pour ne pas perdre ma foi. Aujourd'hui, combien, quand ils sont tristes, ils prient. Je vous dis, bien-aimés, dans le monde spirituel, les émotions sont des portes. Les émotions sont des portes et sont des esprits. Le Saint-Esprit lui-même, c'est l'esprit de joie. Si le Saint-Esprit est l'esprit de joie, l'esprit de paix, s'il n'est pas là, la tristesse qui est là, c'est l'esprit de qui? Du diable. Du diable. Comment il peut sourire avec tout ce qu'il traverse? Tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux sourire? Si, regarde ma vie, rien ne marche. Je n'ai même pas le goût à la vie. Meurs. Le vouri est encore là. Tu peux sauter, ça ne va jamais remplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève-toi et souris à la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu ne connais pas ton lendemain. C'est pourquoi tu es triste. Mais si tu as foi en Jésus, réjouis-toi. Parce que les diverses épreuves auxquelles tu es confronté aujourd'hui, demain, seront le tremplin d'une joie parfaite. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 2. Il dit, les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous devons les regarder avec une joie parfaite. Toi, tu dis non. Je vais être content quand j'aurai 10 millions dans mon compte. Je vais être content quand on va me rembourser mes dettes. Je vais être content quand celui qui devait m'aider va me donner mon argent. Je vais être content quand j'aurai la maison. Tu ne seras jamais content parce que ta joie est fonction de ce que tu vois. La joie est fonction de ce que Dieu dit. Alléluia. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Parce que je sais qu'il a pour moi un avenir. Il a pour moi un projet de paix et non de malheur. Alors pourquoi ne pas me réjouir? Sois dans la joie. Cinquième clé pour gagner ces batailles. Marcher dans la loyauté. Alléluia. Marcher dans la loyauté. Aujourd'hui, les gens ne sont plus loyaux. Les gens sont devenus des traîtres. C'est écrit. Dans ce temps, les gens seront des traîtres, amis de l'argent, fanfarons. Alléluia. Orgueilleux, menteur, voleur. Aujourd'hui, on cherche des hommes loyaux. On ne les trouve pas. Dans un groupe de 10 personnes, tu ne trouveras même pas une personne loyale. Tu travailles avec des gens, tu as des amis. Deux Chroniques, chapitre 15, le verset 17. 2 Chroniques 15, 17, il dit, mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël. Quoique le cœur d'Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Fut en entier. La loyauté, c'est être entier avec l'autre. La loyauté, c'est être entier avec son frère. C'est être vrai avec l'autre. C'est être authentique avec l'autre. Aujourd'hui, chacun cache sa vraie identité en lui-même. Bien-aimé, si tu veux être loyal, si tu veux que les gens soient loyaux vis-à-vis de toi, sois loyal vis-à-vis des autres. La loyauté se provoque. La loyauté se provoque. Et vous devez savoir que la loyauté est une clé puissante pour gagner les batailles de la vie. Il y a des gens formidables avec qui tu es loyal, qui peuvent t'aider à régler certaines batailles. À cause de ta loyauté, ils te délivrent de certaines batailles. Alléluia. Manquer de loyauté, c'est être seul sur le champ de bataille de la vie, malgré ton appel à l'aide. Alléluia. Malgré ton appel à l'aide, personne ne peut t'aider. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens se plaignent que personne ne les vient en aide. Ils sont venus en aide à qui? Pose-toi la question. À qui es-tu venu en aide hier? Pour qu'aujourd'hui, on se souvienne de toi. Le souvenir lié aux archives de ta vie. Si tu n'as aucune archive, où est-ce qu'on va lire pour se souvenir de toi? On a lu dans les archives l'histoire de Mardochée, sa loyauté vis-à-vis du roi. Et le roi l'a honoré autant convenable. Oh non, les gens me détestent. Toi, tu as aimé qui? Ce que tu veux qu'on te fasse faire aux autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Avez-vous déjà vu un homme semer le macabo, il récolte la patate? C'est la sorcellerie. Alléluia. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a lu dans les livres que Mardochée avait délivré le roi d'un complot. Le roi a dit, hey, qu'est-ce qu'on lui a donné? Il dit, roi, on n'a même rien donné, on a oublié. Si le monde spirituel n'a aucune archive sur ta bonté, n'a aucune archive sur ta générosité, n'a aucune archive sur ta loyauté, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu tries les gens à qui tu dois faire du bien. Non, moi je n'ai pas moi fait les... Pardon, mon sang ne colle pas avec toi. Laisse quand tes problèmes vont venir. Ton sang va coller même avec les fous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où ça ne va même pas coller, tu vas chercher la colle forte pour coller. Parce que tu cherches l'aide. Tu cherches l'aide. Est-ce que quelqu'un me suit? Allons dans le livre Allons dans le livre, oh Seigneur. Allons dans le livre de Ecclésiaste. Écoutez ce que Paul dit, Salomon dit. J'aime beaucoup ce texte. C'est très révélateur du comportement de beaucoup de gens. Écoutez ce que il dit. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 et 2. Amen. Le verset 1 et 2. Il dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur, tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Jette ton pain sur les eaux. Qui va manger? Quand tu jettes le pain sur l'eau, les poissons mangent, le canard mange, les oiseaux sauvages mangent, et tout le monde mange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une manière de dire, quand tu fais du bien, ne regarde pas qui tu fais du bien. Ne trie pas les gens à qui tu dois faire du bien. Si Dieu te dit de faire du bien à cet homme, fais-le lui. Fais-lui du bien demain, demain. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur, tu connais quel malheur va arriver sur la terre. Il dit, tu ne sais pas quel malheur arrivera sur la terre. Autrement dit, en faisant du bien comme ça aux autres, quand tu seras dans le malheur, bah, tu ne connais pas ton lendemain. Demain, ce que tu estimes être faux aujourd'hui, demain tu risques d'être faible. Et tu as besoin des faibles là, qui sont devenus forts. Alléluia. Alléluia. Je vous ai partagé le témoignage de cet homme. J'ai prié pour lui. Maman et moi, on était allés prier pour leur fils qui venait des États-Unis. Et cet homme me dit que, homme de Dieu, tu sais comment j'ai fait pour avoir le visa pour mes 3 enfants pour les États-Unis? J'ai dit non. Il me dit, j'ai fait du bien à une femme dans une pharmacie. 15 000 francs. La dame était à la pharmacie, elle demandait l'aide. Pardon, aidez-moi à payer ma facture. Je vais vous rembourser. Et tout le monde s'esquivait. Ah non, non, non. Ah, c'est toujours comme ça que les malhonnêtes font. Les malhonnêtes. Le monsieur est venu, il a dit, madame, qu'est-ce qu'il y a comme problème? La dame a dit, papa, on m'a donné une facture ici, je n'ai pas l'argent, tout, et je dois payer là, j'ai une urgence à l'hôpital. Il me faut 15 000. Et le monsieur a sorti 15 000, il a donné à la dame. Et quand il a donné à la dame a dit, donnez-moi votre numéro. Il a dit que non, c'est un don. Allez-y, faites votre opération. Elle a payé ses médicaments, il lui a dit merci, elle est partie. Un an plus tard, son enfant devait partir aux États-Unis. Il a eu l'interview à l'ambassade. Il arrive à l'ambassade. Ils étaient assis à la salle d'attente, en face du bureau où on fait les interviews. La minute d'après, une dame ouvre la porte, elle sort. C'était elle qui était responsable dans le bureau. Il regarde comme ça. La dame regarde et dit, monsieur, je vous reconnais quelque part. Il dit, moi-même, votre visa m'est familier. La dame dit, la pharmacie. Il dit, oui. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, non, mon fils a l'interview pour les États-Unis. Il dit, et vous, vous faites quoi? Je travaille ici. C'est votre fils. Donnez-moi le dossier. Il allait dedans, pap, pouf, va. Et la dame lui a dit, si tu as d'autres enfants, viens avec eux. Et c'est comme ça que ces 3 enfants aujourd'hui sont aux États-Unis. Ah, bien-aimé, il faut toujours trier les gens avec qui, à qui tu dois faire du bien. Et il me disait, homme de Dieu, aujourd'hui je n'ai dépensé que 15 000 pour 3 enfants pour les États-Unis. 15 000! Chaque jour tu dis non, mon sang ne colle pas. Tu vas confirmer. Amen! Si Dieu te met à cœur de faire du bien à quelqu'un, qu'importe ce que tu ressens, fais-lui du bien. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas de quoi est fait le lendemain. Alléluia. Tu ne connais pas. Est-ce que j'aide quelqu'un? J'ai vu plein de personnes comme ça devenir de grandes personnes à cause du bien qu'ils ont fait aux autres hier. Comme ça. Comme ça. La porte s'est ouverte. Comme ça. C'était sa sémence. Dieu lui a demandé juste une sémence de 15 000 pour ouvrir la destinée de ses enfants. Pour ouvrir la destinée de ses enfants. Et bien aimé, ne choisis pas à qui tu dois faire du bien. Sois loyal envers les gens. Aime les gens. Aime les gens. Ne trie pas ceux que tu aimes. Parce que les méchants font la même chose. Ils aiment ceux qui les aiment. Comment saura-t-on que tu viens de Dieu quand tu aimes même ceux qui ne t'aiment pas? Tu ne tries pas. Tu ne tries pas. Alléluia. Évoluons. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, il est important de comprendre, comme Paul nous l'a dit, que nous devons combattre le bon combat. Le bon combat est la clé pour le succès. Le bon combat est la clé pour la réussite. De 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. 1 Corinthiens 9, le verset 25. Amen. Regardez. Tout ce que vous faites dans la vie vous demande un prix. Tout combat de la vie vous demandera toujours un prix. Écoutez ce que Paul dit. Le verset 25. Chapitre 9. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir quoi? Une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, Paul dit ici, que ce soit les choses physiques, que ce soit pour des raisons physiques ou pour des raisons spirituelles, nous devons nous abstenir de certaines choses. Pour avoir certaines choses, tu dois perdre d'autres. Pour avoir certaines choses, tu dois t'abstenir d'autres. Alléluia. Pour avoir un bon mari demain, tu dois t'abstenir de chercher les faux garçons aujourd'hui. De t'engager dans de fausses relations qui vont détruire ta vie. Et demain, tu vas manquer de jugement et de discernement dans la qualité d'hommes qui vont venir devant toi. Amen. Demain, pour avoir un bon travail dans la vie, tu dois t'abstenir d'aller jouer et travailler, avoir de bonnes notes. Alléluia. T'es discipliné. Demain, si tu veux être une bonne maman qui sait préparer la bonne nourriture à ton mari, tu dois t'abstenir d'aller courir avec les copines partout, gauche-droite, et t'asseoir à côté de ta mère. Elle t'enseigne comment faire la bonne cuisine. Pour que demain, tu n'empoisonnes pas l'homme d'autrui. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il peut manger, c'est ta beauté. Je suis belle, non? Je suis belle, non? On mange ça. À un moment, ça fatigue. Amen. Il faut que tu saches préparer. Il faut que tu saches comment tenir une maison. Alléluia. L'homme de Tura, il jette son pantalon ici. Il vient deux jours après, il voit le même pantalon au même endroit. Mais il est en danger de mort. Il est en danger de mort. Alléluia. Regardez un film nigérien l'autre jour. La dame, quand ses amis, les amis de son mari arrivent, comme elle ne connaissait pas préparer, elle est allée en boutique, elle a cherché les biscuits avec les arachides, elle a servi à table. Le gars était choqué. Il a dit, non, c'est tout ce que tu sais faire dans ta vie. Donc, je suis un prisonnier dans ma propre maison. Jusqu'à la fin de ma vie, je dois manger les biscuits et les arachides. Seigneur. Alléluia. Paie quelque chose pour gagner quelque chose. Et perdre quelque chose, c'est se discipliner. C'est se discipliner. Alléluia. Tes amis disent que, gars, nous on a les petits, toi tu n'as pas. Tu dis que, mon frère, je sais là où je pars. Je sais là où je pars. Quand tu sais là où tu pars, bien-aimé, tu ne prends pas n'importe quel bus. Et tu n'acceptes pas n'importe qui dans ton bus. Il y a des gens que leur poids va faire éclater les pneus de ton bus. Le poids de leur péché, le poids de leur malhonnêteté, le poids de leur fausseté Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il prend la parole, on pleure seulement. Il doit tout dire. Il doit sortir ici. Léger. Dis à ton voisin, léger. Pour voler au-dessus de tes batailles. Alléluia. Alors, revenons dans ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Alléluia. Nous, je voudrais dire quelque chose à ce niveau. Observez très bien. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Tout ce que Dieu fait dans la vie d'un de ses enfants, il annonce d'abord au préalable. Il annonce, c'est important. Il annonce pourquoi? Un, pour que tu te prépares. Deux, pour que tu te tiennes dans la bataille. Trois, pour que tu ne te décourages pas. Quatre, pour que tu ne gardes pas tes adversaires dans ton esprit. Tu saches que c'est ton chemin. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont la rancune même pour leurs ennemis. Tu vas voir. Quand Dieu va m'élever, je vais te... Tu as déjà échoué. Amen. Quand Dieu annonce, pourquoi tu vas en vouloir les gens? Tu comprends qu'ils sont juste sur ton chemin pour t'aider à accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Vous avez vu un jour Mardochée avoir la rancune pour Aman? Ce n'était pas Aman qui avait la rancune pour lui? L'ennemi a la rancune pour toi. Toi, tu as la rancune pour lui, mais tu partages le même sang que lui. Toi-même là, tu es un sorcier. Alléluia. Alors, évoluons. Sept personnes à éviter pour réussir dans la vie. Sept personnes à éviter pour réussir dans la vie. Pour gagner les batailles de la vie. Premier type de personnes que tu dois éviter, frère. Pour dépasser les limites des batailles et accéder au succès. Tu dois éviter le premier groupe qui sont quoi? Les porteurs d'histoire. Alléluia. Les porteurs d'histoire. Ce sont les personnes qui donnent des informations pour déformer ta vie. Amen. Pour déformer ta vie. Proverbe chapitre 18, le verset 8. Proverbe 18, le verset 8. La Bible dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Le rapporteur, c'est qui? C'est celui qui fait le commérage. Qui rapporte l'histoire des gens. C'est les porteurs d'histoire. Donc, quand tu viens vers eux, ils ont toutes les versions d'histoire sur les gens. Alléluia. Il y a des gens, hein, bien-aimés, vous les connaissez, qui ont toujours des versions d'histoire sur les autres. Ils ne le connaissent pas, hein, mais ils disent que je le connais. Lui-là, il a ça, son père c'est tel, sa mère c'est tel. Il raconte toute une histoire et plus tu vas les écouter, plus ta vie va être déformée. Plus ta vie va être déformée. Alléluia. Et vous devez savoir que dans la vie, les bavards sont des grands commères. Alléluia. Quand tu as un ami qui est trop bavard, évite-le. Ne raconte plus tes choses. Parce que quand il finit de raconter pour la voisine, quand tu quittes, il raconte pour toi la voisine. Alléluia. Papa, 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 papa. Qui ne connaît pas tenir sa langue? Attention. Ce sont des commères, pas des adorateurs. Ils font des commérages pour semer la discorde, l'amertume, afin de séparer les gens. Et si tu accordes de l'attention aux commères, tu passeras à côté de l'évangile et tu attireras les batailles sur ta vie. Deuxième type de personnes qu'il faut éviter, deuxième groupe de personnes qu'il faut éviter, les personnes à la culture narcissique. Alléluia. Les personnes à la culture narcissique. Ce sont les personnes qui ont une idée exagérée d'elles-mêmes. Alléluia. Qui ont une idée comment exagérée. Qui se croient dessus. Qui croient qu'elles sont le centre du monde. Alléluia. Après elles, c'est le virage. Alléluia. Non. Les personnes narcissiques croient que personne n'a leur intelligence. Elles connaissent. Elles savent tout. Il faut éviter les gens comme ça. Elles se sentent trop importantes. Et par conséquent, traitent les autres avec beaucoup de mépris. Alléluia. Traitent les autres avec beaucoup de mépris. Alors si tu côtoies de telles personnes, elles peuvent te faire sentir que tu ne vaux rien dans la vie. Sentir que tu ne vaux rien dans la vie. Hier, je suis allé dans un restaurant de manger une glace et quand je m'assois, j'aime bien m'asseoir à l'entrée pour voir la manière que les gens entrent. Alléluia. Quand quelqu'un entre dans un endroit et que ce n'est pas son univers, tu connais. La personne est mal à l'aise. C'est-à-dire mal à l'aise devant la clim, devant autant de beauté. Alléluia. Et donc, il y a un groupe de jeunes qui est arrivé. Tu sais directement qui conduit les autres. Celle qui entrait, elle entrait. Boum. Il y a une autre qui, quand elle entrait, c'est comme si elle courait seulement pour se cacher derrière les autres. Elle dit, celle-ci accompagne. Celle-ci accompagne. Et c'est ça la vie. Il y a des gens devant. Et dans cet endroit, la glace, ce n'est pas petit argent. Il faut un peu d'argent. Amen. Il y a une jeune fille qui est venue. Apparemment, elle voulait prendre une glace pour elle et son petit frère. Mais le prix de la glace, elle regarde. Après, elle part voir une fille qui mangeait avec son petit frère. Je pouvais interpréter ce qu'elle était en train de dire. Tu as acheté ta part combien? On lui a dit le prix, elle est venue, elle a dit que donne une glace, pardon. Ne donne plus deux. Et elle s'est assise, elle a donné à son petit frère, là, pour le téléphone, elle a commencé à naviguer. Pendant que le gars mangeait, lui, sa glace seule. Bien-aimé, il y a des gens comme ça dans la vie. Quand ils t'amènent quelque part, c'est pour que tu te sentes mal à l'aise. Et pour qu'il ait l'ascendance sur toi. Il va dire, viens, on part se balader. Toi, tu n'es jamais allé te balader. Toi, tu tournes seulement ici à Bifaka. Tu tournes à Bifaka. Alléluia. Demain, sort. On part manger. Tu es là mal à l'aise. Mais tu veux aussi montrer que tu es quelqu'un. Alléluia. Demain, chacun vient avec ses 5000 euros. On va manger. Je t'en donne 200 francs. Comment faire pour avoir 5000? Il n'y a qu'une seule option. C'est quoi? Voler. Amen. C'est comme ça que tu te retrouves. Quand tu te retrouves, vous allez voir les personnes comme ça. Quand elles se retrouvent dans les environnements comme ça, elles sont toujours comme ça. Comme un ancien voleur. Alléluia. Parce qu'on est mal à l'aise. Et les personnes narcissiques profitent de cela pour manipuler la vie de telles personnes. Il t'amène dans un environnement qui n'est pas ton environnement et te manipule. Et quand tu rentres, tu lui es reconnaissant parce qu'il t'a initié à quelque chose que tu n'étais pas habitué. Alléluia. Tu dis merci. Et tu es prêt à tout faire pour être proche d'elle. Je parle aux enfants comme ça. Vous allez avoir, ça a commencé les classes, vous allez avoir des camarades comme ça. C'est eux qui vont vous inspirer à voler. C'est eux qui vont vous inspirer à mentir. C'est ça les personnes narcissiques. Ils t'aident à te transformer et à changer de caractère. Du jour au lendemain, tu changes à la maison. Parce que tu veux leur prouver que tu es quelqu'un de valable. C'est ça les personnes narcissiques. Ces personnes détestent l'instruction, la responsabilité ou le conseil. Détestent ça. Ils veulent être eux-mêmes les personnes qui dictent et qui expérimentent leurs propres idées. 2 Timothée chapitre 3, le verset 2, 2 Timothée 3, 2, l'Écriture dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Il a dit quoi? Répétez encore. Alors, voici là où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui. Ça a été écrit, ça fait 2020, plus de 2000 ans hein, que Paul a écrit, hein, que vous allez être rebelles. Donc ça n'étonne pas Dieu. Ingrat, irreligieux. Troisième groupe de personnes à éviter dans les batailles de la vie, bien-aimés. Les personnes qui ont une mauvaise influence. Les personnes qui ont une mauvaise influence. Ce sont des personnes qui peuvent contaminer la moralité par leur style de vie négatif. Alléluia. Ils vont venir dire que tu n'as jamais embrassé un garçon. Tu sais comment on embrasse un garçon. Ta vie est là foutue, hein. On te regarde. Ah non, 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 toi tu ne connais même pas embrasser une fille. Pour prouver que tu es un garçon. Tu passes à l'acte, on dit, bon, prouve alors, voilà Nathalie, embrasse-la, allons voir. Nathalie aussi, là, elle est une folle. Elle dit, oui, embrasse-moi, elle voit aussi. C'est les démons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu vous voit. Ce que j'explique, c'est ce que Dieu montre. Donc, tu es bébête. Comme tu subis la mauvaise influence, tu dis embrasse-moi là. Et c'est comme ça que le premier l'embrassant là, c'est fini. Ta vie rentre dans l'impudicité. La même nuit, couche de nuit. La même nuit. Et ta vie est saccagée pour toujours. Et le jour qu'on va venir d'ici par prophétie que un gars t'avait embrassé quand tu étais en sixième, tu ne vas même plus te rappeler. Oh, c'était le point de départ. C'était le point de départ. Beaucoup de camarades là, à dehors, ce sont des bornes positives, des bornes négatives. Quand tu te connectes aux bornes négatives, tu encaisses le négatif. Mauvaise influence. Paul dit dans le livre des Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Quelle est ta compagnie? Quel genre d'amis tu t'es déjà associé avec au début de cette rentrée? Vous, les élèves là. Quel genre d'amis, vous les papas, vous les mamans, avec qui tu marches aujourd'hui? J'ai dit quelque chose, bien-aimé. Est-ce que je peux parler? C'est un danger d'avoir beaucoup d'amis. Et c'est un danger d'en avoir pas, de ne pas avoir d'amis. Alléluia. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Alléluia. Les a pour son malheur. Maintenant, c'est aussi un danger de ne pas avoir d'amis. Parce que tu as toujours besoin de quelqu'un qui va t'aider dans quelque chose. Alléluia. Alors, ça nous reste quelle option? La seule option que nous avons devant nous, c'est d'avoir le discernement du Seigneur pour choisir ceux avec qui nous devons marcher avec. Alléluia. Alléluia. Ne marche pas seul. C'est dangereux. Si tu marches seul dans ta vie, tu auras du mal à avoir une vie de couple demain. Si tu marches seul dans ta vie, tu auras du mal à avoir confiance aux gens demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Dieu lui-même dit que il n'était pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une solution à ça. Il va lui donner une aide semblable. L'aide, c'est un ami aussi. C'est un bon ami. Ça existe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça existe, les bonnes amitiés. Ça existe. Même pas seulement dans le Seigneur, dans la vie. Il y a des personnes qui sont plus que des frères en Christ pour toi. Des bons amis. Alléluia. Peut-être le seul sujet sur lequel vous ne vous entendez pas, c'est ta foi. Mais c'est des bonnes personnes, fiables. Fiables. Tu peux te coucher comme ça, tu te renverses en arrière, tu te rattrapes. Et la Bible dit que quoi, bien-aimé? Un ami est plus qu'un frère. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il y a des amis aujourd'hui qui sont devenus des membres de ta famille. Tellement leur amitié s'est incorporée dans la famille, au point où même tes enfants l'appellent tonton ou tata. Ils croient que c'est ta soeur, alors que c'est seulement ton ami. Ma mère avait son ami. Son ami, un jour ma mère s'est assise avec son ami, dit que notre amitié est telle que non, il faut qu'on accroît ça. Je veux que ta petite soeur épouse mon petit frère pour que notre amitié devienne familiale. Et cela, ça a été fait. Et aujourd'hui, l'amitié est devenue plus que... C'est devenu la famille. Et si on est ensemble, fais attention avec qui tu marches. Fuis les personnes dont l'influence peut te détruire. Fuis les personnes dont l'influence peut t'amener hors de la volonté de la pensée de Dieu. Si tu veux réussir dans la vie. Quatrième groupe de personnes qu'il faut éviter dans les batailles de la vie. Les personnes ayant une mentalité d'ayant droit. Les personnes ayant une mentalité d'ayant droit. C'est quoi les personnes ayant une mentalité d'ayant droit? Ce sont des personnes qui pensent qu'elles méritent tout ce que tu as. Alléluia. Les personnes ayant une mentalité d'ayant droit, c'est-à-dire que des personnes ayant une mentalité de propriétaire. Tout ce que tu as, ça me revient. Qui pensent qu'elles méritent tout ce que tu as, même si tu n'es pas en position de le leur donner. Ces personnes pensent que tu leur es redevable et te mettront toujours dans la pression de leur donner. Alléluia. Alléluia. C'est comme beaucoup de prophètes d'aujourd'hui, beaucoup de collègues prophètes. Ils vont venir te faire comprendre, te faire croire que tu es dans l'obligation de les bénir. C'est une manipulation. Hein? Et que quand tu les donnes, c'est à Dieu. Il y a des moments, c'est Dieu. Il y a des moments, c'est pas Dieu. C'est que lui, il a envie de ça. La riche était, waouh, tu as une belle télé. Hein? Vraiment, si j'avais ça chez moi. Un jour, on devait aller au Nigeria, maman et moi. On priait avec un ami, prophète. Et il savait pourquoi on partait au Nigeria. Et dans ce voyage, on avait résolu, et je l'en avais parlé, on avait résolu d'apporter une semence. Une semence. Pour notre vie, pour le ministère, on avait prévu une semence pour aller déposer sur cet autel. Et il nous avait encouragé. Amen. Il nous a dit, c'est le plan de Dieu, allez-y. Mais une semaine avant, il vient à la maison, il dit que, prophète, vraiment, comme vous partez là, mais si vous m'aviez donné le genre d'offrande là, le genre de prière que j'aurais fait pour vous, vous voyez, il y a des gens comme ça qui te donnent l'impression qu'ils sont avec toi, mais en fait, ils veulent ce que tu as. Ils veulent ce que tu as. Et ils vont te faire croire que tu es dans l'obligation de leur donner. Alléluia. Attention. Fais attention à ce genre de personnes. Un autre type, groupe de personnes qu'il faut éviter dans la vie. Les personnes... Oui, oui. Amen. Les personnes bénies, oui. Bénies, oui, oui. Bénies, oui, oui. Alléluia. Oui. Ces personnes ne te diront jamais que tu as tort. Alléluia. C'est les personnes que tout ce que tu vas dire, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Frère, tu penses quoi? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Soeur, mon ami, tu penses quoi? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Ils ne te diront jamais non. Oui, 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 oui. Ce sont les personnes qui te citeront toujours, même lorsque tu es dans l'erreur. Alléluia. Faites comme lui, faites comme elle. Même quand tu es dans l'erreur. Ces personnes sont destructrices pour la réussite de ta destinée. Ne marche pas avec les personnes qui ne peuvent pas contester tes décisions, qui ne peuvent pas apporter une autre manière de voir correcte dans ta situation, qui ne peuvent pas t'amener à ouvrir les yeux sur les erreurs de tes propres décisions. Alléluia. Et quand tu as un ami qui accepte tout ce que tu dis, il est partant pour tout ce que tu dis. Tu vas te retrouver dans le village de si je savais. Alléluia. Alléluia. Avant-dernière personne, sixième personne, sixième groupe de personnes, les personnes ingrates. Oh, qu'est-ce qu'on va dire sur les personnes ingrates? Ce sont les personnes qui n'ont pas de gratitude, qui ne connaissent pas dire merci, qui ne connaissent pas être reconnaissantes. Alléluia. Même lorsqu'ils voient tes efforts dans leur vie, ils se sentent trop grands pour te dire merci. Alléluia. Trop grands. Même lorsqu'ils voient les sacrifices que tu consens pour leur vie, ils ont de la difficulté pour te dire merci. Ils se sentent toujours supérieurs. Ils estiment que la reconnaissance est une faiblesse. Alléluia. C'est une faiblesse. Des gens comme ça, tu vas passer toute ta vie à attendre qu'ils te disent merci. Tu vas passer toute ta vie à attendre qu'ils te disent merci. Ils ne vont jamais le faire. Septième groupe de personnes à éviter. Les personnes qui simulent tout. Les personnes qui simulent tout. Alléluia. En fait, c'est des personnes qui ont une double identité, qui ont une vie hypocrite. Qui ont une vie comment? Hypocrite. Ils te montrent un visage qui n'est pas le vrai. Rien de vrai. Et des réels ne peuvent sortir des personnes qui font semblant. Ils font semblant d'être avec toi. Ils font semblant de t'aimer. Ils font semblant de t'aider. Ils font semblant de te soutenir. Ils font semblant de compatir avec toi. Alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes qui vivent une réalité fausse d'elles-mêmes. Je prie pour toi que tu réussisses au-delà de tes rêves et que toutes les personnes qui se cachent pour détruire ton succès soient démasquées au nom de Jésus. Soient démasquées au nom de Jésus. Voyez, bien-aimé, le succès ne se produit pas du jour au lendemain. Si tu t'engages avec application dans les lois du succès, rien ne peut arrêter ton succès. Tu es responsable à 99% de ton succès, de ton échec ou de ton succès dans la vie. Tu es responsable. Alors quand je dis tu es responsable à 99%, ça veut dire l'adversaire, il est responsable à combien de pourcentage? 1%. 1%. Même au milieu des batailles, c'est la façon dont tu prends tes responsabilités qui détermineront si tu réussis ou si tu échoues. La manière que tu prends tes responsabilités. Au nom de la recherche des miracles, tu peux devenir paresseux et ne pas être performant dans la vie. Alléluia. Tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, mais tu ne vis jamais une vie normale chrétienne. Alléluia. Personne n'ira au ciel au nom d'un prophète. Personne n'ira au ciel par la prophétie d'un prophète. Personne n'ira au ciel par la révélation d'un prophète. Chacun ira au ciel de par sa marche chrétienne de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Quatre raisons pour lesquelles les gens ne peuvent jamais réussir dans la vie. Je vous donne quatre raisons pour lesquelles les gens ne peuvent jamais réussir dans la vie. S'il vous plaît, à aider les enfants là à se calmer un peu. Alléluia. Première raison pour laquelle les gens ne peuvent jamais réussir dans la vie. La surresponsabilité. La surresponsabilité. Alléluia. La surresponsabilité qui te rend irresponsable. La surresponsabilité qui te rend irresponsable. Alors, j'explique. Alléluia. Il y a des gens qui n'hésiteront pas à récupérer tout ce que tu as et quand tu chutes. Ils se moqueront de toi. Ne sois pas aussi responsable des autres que toi-même. Vous voyez, il y a des gens qui croient qu'en portant la charge de toute la famille, ils vont être considérés comme irresponsables. Parfois, en portant la charge de toute la famille, tu oublies tes propres responsabilités et en cela, tu es irresponsable. Alléluia. Ta priorité. Tu ne peux pas engager ta responsabilité aux confins de la terre sans commencer par Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir des parents, des pères ou des pères qui vont élever les enfants de ses sœurs. Ses propres enfants auront, il ne va jamais être disponible pour eux. Sur le point familial, il est responsable, non? N'est-ce pas? Mais sur le point de sa propre maison, il est comment? Irresponsable. Alors, avant d'arriver aux confins de la terre, commence par Jérusalem. Si ta propre maison n'est pas stable, ce n'est pas la maison des autres qui seront stables à cause de toi. Et sache que pour un père, le meilleur investissement pour un père, c'est dans la vie de ses propres enfants. Quel que soit ce que tu vas apporter dans la vie des enfants de tes soeurs, dans la vie des enfants de tes soeurs, de tes frères, quand les moments compliqués vont arriver, on va te rappeler que tu n'as rien foutu. Je vous partage ce témoignage. Mon père prenait beaucoup soin des enfants de ses frères et soeurs. Alors un jour, il y a eu une situation dans la famille. Le petit frère de mon père s'est assis avec les enfants que mon père a chaque année donné cahier, chaque année payé l'école. Ils se sont assis pour faire une réunion contre mon père. Et lui et ses enfants ont conclu que mon père... Ils ne vont pas regarder mon père. Alléluia. Et son petit frère a pris la route. Il est venu à la maison voir mon père. Lui dit, lui et ses enfants font la réunion contre lui. Et il lui a raconté tout. Et quand, est-ce qu'il a raconté pour lui faire du bien? Quand il est parti, mon père s'est assis avec ma mère et on était à côté, il a commencé à dire, regarde les enfants que j'ai élevés. Et ma mère a éclaté de rire. Elle lui a dit, t'es toujours dit que le meilleur investissement, ce sont tes enfants. Demain, tu tombes malade, aucun d'eux ne viendra pour toi. Ce sont ces enfants qui vont te donner à manger. Et parfois, nous oublions ça. Nous oublions ça. Nous nous croyons responsables de la misère du monde. Un jour, Jésus était quelque part. Il était allé chez un homme riche manger. Ah, Jésus, il aimait aller manger chez les gens bien. Alléluia. Et il y a des gens que Jésus ne pouvait pas aller chez toi parce que pour que tu le nourrisses, tu vas être encore plus pauvre. Alléluia. Il est allé parce qu'il savait aussi que chez les riches, il y a toute la bonne nourriture. Il y a moins d'indigestion. Alléluia. Et donc, il est allé, il a mangé. Et la personne l'a offert à une table, il s'est assis avec ses disciples. Et pendant qu'il était là, la Bible dit qu'une femme de mauvaise vie va entrer, avec un parfum de prix. Elle va laver les pieds de Jésus avec ses larmes, essuyer avec ses cheveux, et briser le parfum de prix sur la tête de Jésus. Et quelqu'un va dire, oh, le malhonnête Judas. On va dire, oh, ce parfum-ci, on l'aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas être là pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Tu dois choisir les priorités de ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu dois choisir les priorités de ta responsabilité. Aime et aide les gens, mais rappelle-toi toujours que tu n'es pas Dieu. Amen. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas Dieu. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et aimer son prochain, pas aimer son prochain plus que soi-même. Et donc, aimer son prochain plus que soi-même est un péché. Deuxième raison pour laquelle les gens ne peuvent jamais réussir dans les batailles de la vie. Un mauvais état d'esprit. Amen. Un mauvais état d'esprit. Les personnes qui ont un mauvais état d'esprit associeront toujours le succès au diabolisme. Amen. Ils associeront toujours le succès au diabolisme. Par exemple, vous allez voir des gens, quand ta vie va changer, là, il va questionner, il va dire non, ça ce n'est pas Dieu. Le frère là, il a mis les mains quelque part. Alléluia. Parce que pour lui, le succès, il a une mauvaise mentalité. Sa mentalité est pauvre. Plusieurs ici, au milieu de nous, ne sont pas prêts pour la réussite des autres. Alléluia. C'est-à-dire, tant que tu es comme ça, non, c'est Dieu qui est avec toi. Tant que tu viens, tu dis que Dieu m'a béni avec 100 000, non, c'est Dieu. Dieu m'a béni avec 10 000, c'est Dieu. Le jour que tu vas venir, Dieu m'a béni avec 1 million, c'est pas Dieu. Ça, c'est le diable, ma soeur, il faut faire attention. Hein. Il y a certaines choses dans la vie, le diable passe comme ça. À quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Quelle âme? Reste calme. Alléluia. Change de mentalité. Tu dois améliorer ton état d'esprit pour pouvoir améliorer ta vie. Alléluia. Troisième raison pour laquelle les gens ne réussissent pas dans la vie, la mauvaise utilisation de l'argent. Ah oui! La mauvaise utilisation de l'argent. Oui, bien-aimé. Il y a trois façons d'utiliser l'argent. Trois façons d'utiliser l'argent. Première façon, en le dépensant. Deuxième, en l'économisant. Troisième, en l'investissant. Amen. Trois façons d'utiliser ton argent. Premièrement, en le dépensant. Troisièmement, en l'économisant. Troisièmement, en l'investissant. Donc, si tu ne fais pas l'un, tu fais forcément l'autre. Alléluia. Alors, sois sage avec l'argent si tu veux réussir. Ne te contente pas de dépenser l'argent. Apprends à économiser et à investir l'argent. Alléluia. Apprends à économiser, à investir. On te donne l'argent. Poup, 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 tu manges. On te donne. Poup, poup, quand tu as un petit projet, tu as déjà payé tout char d'habits sur toi. Tout char d'habits. Tu vas investir à quel moment? Alléluia. Dieu bénisse son nom. Alléluia. Je me souviens un moment quand ma fille Danielle, qui est là derrière, investissait pour un projet dans sa vie. Un jour, elle m'appelle le téléphone et on discute. Elle me dit, ah, papa, depuis que je suis sur le projet là, même m'acheter une petite chaussure, je n'arrive plus. Elle dit que oui, tu es en train d'investir. Alors tu te prives pour quelque chose de grand demain. Alléluia. Elle me disait, est-ce que tu te rends compte que le mois-ci, je n'ai même pas acheté un sac? Alléluia. Si chaque mois, tu achètes, ça veut dire que tu n'investis jamais. Et si tu achètes, tu vas finir par manger ta semence. Alléluia. Trois façons d'utiliser ton argent. Garde ça dans ton esprit. Garde ça dans ton esprit. Première façon, en dépensant. Deuxième, en économisant. Troisième, en investissant. Donc, choisis l'une des façons. Comment tu vas utiliser? Alléluia. Amen. Quatrième raison pour laquelle les gens ne peuvent pas réussir dans la vie. Les mauvaises compagnies. Nous l'avons dit et nous ne le dirons jamais assez. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies attirent les mauvaises réalités. Si tu t'associes mal, tu resteras un combattant dans la vie. Alléluia. Il y a des combats qui vont durer dans ta vie à cause des gens avec qui tu marches. Alléluia. Il y a des combats qui vont durer dans ta vie à cause des gens avec qui tu marches. Si tu ne changes pas, les choses ne vont pas évoluer. Amen. Je prophétise dans ta vie. Tu ne seras jamais trouvé dans les raisons qui empêchent le succès dans la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus! On va terminer avec quelques habitudes. Alléluia. Des habitudes qui attirent les grands hommes vers le bas. Ah! Alors, si tu es un grand homme, évite ce genre de comportement et d'attitude. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Tu es avec moi? Tu es fatigué? On laisse comme ça? Ok? D'accord. Alors, prenez note des habitudes suivantes. Première habitude qui amène une grande valeur, une grande destinée vers le bas, l'amour excessif pour la nourriture. Alléluia. L'amour excessif pour la nourriture. J'ai dit la nourriture. Quelqu'un dit, il a dit la nourriture. C'est la nourriture que je parle. Alléluia. Et la nourriture. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont changé la norme. Ils vivent pour manger. Et du coup, c'est un... Adam est tombé à cause de l'amour de la nourriture. C'est ce que Ève a mangé qu'elle lui a donné. Il a aussi mangé et cherché de venir de là. Si ce n'était pas l'amour de la nourriture, comme un fruit ordinaire, aurait-il pu faire dérailler Adam de l'instruction de Dieu? Ésaü a perdu sa destinée et son droit d'aînesse à cause d'un plat de potage. Genèse 25, le verset 29 à 30. Alléluia. Il y a des gens qui sont esclaves de la nourriture. Si tu les présentes de la nourriture, tu peux obtenir n'importe quelle information dans leur vie. Un appétit incontrôlé ou incontrôlable est un destructeur. Alléluia. Il y a des gens, si tu veux connaître des choses dans leur vie, autour de leur vie, amène-le au resto. Quand il va manger, il va parler. Alléluia. Il va parler. Deuxième habitude que tu dois régler. L'amour de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent. On reconnaît les gens quand on leur met de l'argent dans les mains. Vous savez, l'argent est un révélateur de caractère. Il y a des gens qui sont humbles parce qu'ils n'ont rien. Alléluia. Alléluia. L'argent est un révélateur de caractère. Il y a des gens qui me respectent encore parce qu'ils n'ont rien. Quand ils vont avoir, ils vont m'appeler pasteur, pasteur, pasteur. Alléluia. Mais comme ils n'ont rien, ils disent papa, papa, papa. Moi-même, je sais que ma vie est en balance. Alléluia. Même mon ministère balance dans leur bouche. Alléluia. Judas est resté 3 ans et demi avec Jésus. Mais cette relation ne signifiait rien quand on lui a donné de l'argent pour qu'il trahisse Jésus. Amen. Il était proche de Jésus. Mais il n'a pas hésité quand on lui a donné 30 pièces. Il a dit, vendez-le, dis donc. Il a livré là où Jésus priait d'habitude. Bien-aimé. Si l'amour de l'argent te contrôle, tu perdras le contrôle de ta destinée. Il y a des gens qui sont normaux jusqu'à ce qu'ils voient de l'argent. Ou bien jusqu'à ce qu'ils entendent de l'argent. Alléluia. Ils ont vu qu'une pièce d'argent tape quelque part. Ils deviennent cinglés. Alléluia. Ils commencent à parler en guettant par où c'est tombé. Par où c'est tombé. Après, il reste tranquille. Parce qu'il a vu et il s'est rendu compte que toi, tu n'as pas vu. Il prépare comment il va aller récupérer ça. Alléluia. L'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Bien-aimé. L'argent, lui, n'a pas de problème. Hein? L'argent est neutre. L'argent est un serviteur neutre. Est un serviteur neutre. Et il dit, l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. Il dit, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Quelques-uns en étant comment? Possédés. Tu peux être possédé par l'amour de l'argent. Se sont éloignés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez? Certaines personnes sont si avides et ne peuvent aider personne parce qu'elles aiment l'argent à l'excès. Alléluia. Elles ont beaucoup d'argent, hein? Mais quand tu viens exposer ton... Non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Parce qu'elles disent que... Parce que dans leur tête, c'est que si tu sors 10 000 sur ce que tu as, c'est ça plus 1 million. Alléluia. C'est ça maintenant 990 000. Donc, ce n'est plus 1 million. Du coup, ils ne t'aident pas. L'avidité, l'amour de l'argent. Alléluia. Une autre habitude qu'il faut bannir de ta vie, bien-aimé. L'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. L'orgueil est le chemin parfait pour une chute parfaite de la grandeur. Demandez à Nebuchadnezzar. Par orgueil, il est tombé dans une nature animale. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, le verset 18. Ce qui a fait tomber Satan du ciel, c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. L'orgueil est un instrument de chute. Alléluia. Sur quoi tu dois travailler, tu dois chasser l'orgueil de ta vie. Alléluia. Lorsque tu es trop imbu de toi-même, il y a des gens qui sont imbus de leur beauté. Quand ils voient leur beauté, l'orgueil monte. Amen. Satan était imbu de sa beauté. Il savait qu'il était beau. Et l'orgueil a rempli son cœur à cause de sa beauté. Donc on peut être orgueilleux par sa beauté. On peut être orgueilleux parce qu'on a de l'argent. On peut être orgueilleux parce qu'on est allé à l'école par l'instruction et la connaissance. Salomon dit, la connaissance enfle. Alléluia. Alors, attention. Ton physique peut être un instrument d'orgueil. Regardez comment je suis belle. Regardez comment je marche. Alléluia. Regardez mes formes. Alléluia. Tu deviens orgueilleux et orgueilleuse. Vous allez voir des garçons aujourd'hui sur Facebook. Sur les réseaux, ils sont devenus les influenceurs. Ils montent leur poitrine aux filles. Plein d'orgueil. Plein d'orgueil. Tout le monde dit, voilà le genre de mari que j'aimerais dans ma vie. Tu ne sais pas que c'est les filtres. Alléluia. Qui lui donne les pectoraux. Il n'a même pas. Alléluia. Le jour que tu le vois hors filtre, tu dirais que tu as que les bidons ou bien c'est comment, d'autres dames ou bien c'est quoi. Alléluia. Que Dieu vous aide. Aujourd'hui, il y a des filtres qui rendent quelqu'un taillé de haut jusqu'en bas. C'est ça, non? On m'a montré plein de filtres. Je ne savais pas que ça existait. On m'a dit, le filtre, si quand tu veux faire ça, tu utilises le filtre, si. Le filtre, si, c'est pour... Et, Le diable est en train de créer toute la technologie pour le mensonge. Les gens ne veulent plus vivre dans la vérité. Même pour leur corps, ils sont tellement honte. Il y a une influenceuse camerounaise qu'on a interviewée sur une chaîne ivoirienne un jour. Et la journaliste lui a dit que, est-ce que vous pouviez vivre sans filtre? Elle dit, jamais. Je ne peux plus vivre sans filtre. J'ai besoin de filtre pour me sentir moi-même. Alléluia. Aujourd'hui, vous tous là, quand on voit vos photos, c'est plein de filtres. Tu regardes comme ça. Après, tu viens, tu vois la vraie personne, tu vois. Un truc qui coince. Alléluia. Parce qu'on a utilisé les filtres pour enlever la saleté sur le visage, pour enlever les points de beauté, pour mettre les points de beauté. Tu n'as jamais eu de point de beauté. Mais sur ta photo sur les réseaux, tu as un point de beauté ici. Ce n'est pas vrai. Tu as fait ça comment? La technologie. Sort de la fausse vie, l'orgueil. C'est la Bible appelle ça l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Alléluia. L'orgueil de la vie. L'orgueil peut faire de toi un faiseur de bruit plutôt qu'un faiseur d'impact. On ne sait pas qu'on est humble tant qu'on n'a pas touché à l'argent et à la célébrité. Alléluia. Ne dis jamais que je suis humble, hein? Si quelqu'un à côté de toi dit qu'il est humble, donne-lui 100 000, comme ça. Fais cadeau, 100 000. Tu attends le retour. Alléluia. La même nuit, il va faire le direct sur toi et t'insulter jusqu'à... Alléluia. Amen. Attention. Dieu veut que nous vivions une vie vraie. Et vivre une vie humble, c'est vivre une vie vraie. Alléluia. C'est vivre une vie vraie. Bien-aimé, je vais vous poser une question. J'ai même pas une question, je vais vous donner une remarque. Notez ceci, que tous ceux que vous voyez aujourd'hui comme des exemples sur vos réseaux là, lequel s'est marié avec quelqu'un de normal? Alléluia! C'est-à-dire que un malhonnête ne peut épouser qu'un malhonnête. Amen. Parce que c'est sur les réseaux qu'ils se rencontrent. C'est sur les réseaux qu'ils vivent leur mariage. C'est sur les réseaux qu'ils vivent leur relation. Un pasteur, dans la colère, a frappé sa femme. Une, deux fois, trois fois, elle est allée sur les réseaux. Lui-même aussi allé sur les réseaux. Brrr, pasteur, ma pasteur, pas pasteur. Bang, gauche, droite. Sur les réseaux, chacun avait son fan club. On a créé les pages pour dire, je soutiens papa pasteur. On a créé les pages pour dire, je soutiens ma pasteur. Ils sont allés au divorce. Et aujourd'hui, ils sont encore en train de se réconcilier. Et la dame est encore revenue sur les réseaux, dit qu'elle vient demander pardon à son mari et demander pardon à tous ceux qu'elle a insultés. Et que ses partisans, ceux qui la suivaient, ses followers, pardon, respectez l'homme de Dieu. Pas pasteur. vous voyez combien ça a impacté l'église. Regardez l'église. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Dis à quelqu'un, vie normale. Alléluia. De temps en temps, va sur les réseaux, tu mets tes petites photos tranquilles, avec tes petites formes tranquilles, tu restes toi tranquille. Tu lis les petits messages chrétiens, tu lis les versets bibliques, tu n'as même pas besoin qu'on voie ta tête. Amen. Alléluia. J'ai du mal à ce qu'on mette mon visage sur certains trucs. Du mal. Vous verrez très rarement ma photo sur Facebook. sur la page. Ça me fatigue. Alléluia. C'est Yannick si qui m'a convaincu de mettre ma tête sur les choses. Alléluia. C'est Yannick. Même Félix dirait comme ça, c'était pas chaud. J'étais pas chaud. Moi, à l'université, j'ai fait communication. Donc, je sais ce que c'est que l'histoire-ci. Alléluia. Je sais ce que c'est que l'histoire-ci. On avait une unité de violence qu'on appelait la manipulation des masses. Comment on peut balancer une rumeur pour vous amener à poser l'acte contraire? Vous voyez? On a utilisé une rumeur. On a amené l'humanité à se vacciner. Et sachez que toute cette science-là, ce sont les Américains qui l'ont créée. Quand nous allions à l'école, tous les pères des masses médias, de la manipulation des médias, c'était les Américains. Nous, on étudiait que leurs thèses. Nous, on étudiait que leurs stratégies de travail. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on utilise dans les réseaux. Bien-aimé, fais attention. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne sois pas orgueilleux. Sois simple. Vis ta vie simplement. Tu vas te sentir mieux après. Amen. Et personne n'aura de raison de t'accuser dans quoi que ce soit. Amen. Avant-dernier point. Dans les habitudes. Quatrième point. La langue mensongère. Alléluia. La langue mensongère. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les chrétiens mentent plus que les païens? En commençant par nous, les pasteurs. Un homme de Dieu se met à l'autel. Il ment pour attirer les offrandes. Alléluia. Il ment. Il donne de faux témoignages. De faux témoignages. Pour qu'on croit à l'authenticité de son appel. Alléluia. On n'a plus peur de mentir même sur l'autel de Dieu. Les menteurs sont des destructeurs. C'est pourquoi tu dois... La Bible dit que le diable est le père du mensonge. C'est-à-dire que quand tu mens, tu es le petit-fils de Satan. Ton grand-père, c'est Satan. Ton père, c'est mensonge. Alléluia. C'est pourquoi tu dois répondre à tout mensonge par la vérité. Si tu gardes le silence face à un mensonge, il peut te combattre. Et si tu as l'habitude de mentir, tu es un destructeur. Étonnamment, même certains prédicateurs aujourd'hui mentent contre d'autres prédicateurs juste pour obtenir une validation. Si tu es pasteur et que tu montes sur l'autel, tu enseignes tes chrétiens à voir les autres pasteurs comme les diables et toi le juste, tu as échoué. Tu as échoué. Je me souviens toujours de ces prophètes. Je passe le contrôle au docteur Armel, parce que lui aussi a connu ce prophète-là. Et lui, il se tenait à l'hôtel pour dire comment il est le type Joshua du Cameroun. Que tous les autres sont dans le faux, dans le péché. Mais c'est sur l'hôtel qu'il est mort. C'est sur l'hôtel qu'il a été frappé. Tu ne peux pas prêcher le message. Au lieu de venir prêcher aux chrétiens la vraie vie, tu les prêches la vie des pasteurs. Ton problème, c'est quoi? Amen. Quand je dis nous, pasteurs, nous sommes menteurs, moi, je n'entre pas dans la vie des pasteurs. Je ne vous taxe pas tel que tel est mauvais. Tel est mauvais, tel est mauvais. Donc, toi, tu es vrai. Il y a une chaîne YouTube qui passe sur vos téléphones tout le temps là. Où le gars passe son temps à dire tel prophète, tel pasteur est faux, tel pasteur est faux. Vous suivez ça, non? Je ne vais pas citer le nom, vous connaissez la chaîne là, non? Le soi-disant pasteur là, il est aux États-Unis, c'est un Camerounais. Donc lui, il passe le temps à dire tel est faux, tel est faux, tel est faux, sorcier, vampire, marabout. Lui, c'est le faux, vrai? Alors si tu suis un tel homme, il vomit le venin dans ta vie ne sera jamais bonne. Amen. Dieu n'a pas dit que ses serviteurs sont parfaits. Amen. Personne n'est parfait excepté le Seigneur. Excepté le Seigneur. Chacun a ses défauts. Nous tous, nous travaillons nos vies devant le Seigneur. Alors, si tu gardes les offenses d'un pasteur, quand il va se réconcilier avec Dieu, tu seras au courant. Or, ces offenses, c'est quoi? C'est le poison. C'est le poison qu'on t'a donné. Tu vis avec le poison. Ça va te détruire. Et le Seigneur dit, si mon serviteur tombe, que t'ensemble? Que t'ensemble-t-il? Alors, ton problème est où? S'il tombe, ton problème est où? Et il dit que mon serviteur va tomber 7 fois et il va se relever 7 fois. Bien aimé, compte, est-ce qu'il a atteint 7 fois? Alors, reste tranquille. Et c'est ça le problème que nous avons. La langue. La langue. Enseigne au peuple à connaître Dieu. Il connaît qui est son père. Est-ce qu'il y a les bons pères ici dehors? Chaque père a son défaut, hein? Chaque mère a son défaut. Si une mère passe son temps, dit ton père, c'est un faux type. Elle produit un danger pour sa propre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu produis ton propre poisson. Parce que demain, quand il en aura fini avec son père, il va se retourner contre toi. Et là, tu ne t'en sortiras pas. C'est quoi? Sois correct avec un enfant. Quel que soit ce que son père a fait comme acte, sois correct. Dis-lui, voilà, voilà, voilà. Comporte-toi comme ça dans la vie. Voilà la vie, voilà la vie, voilà la vie. Ne regarde pas ce que ton père a fait. Toi, concentre-toi sur ta vie. Marche comme ça. Marche droit. Alléluia. Marche droit et Dieu te fera du bien. Mais si tu prends la vie de l'autre et que tu prêches, quand il va se rendre compte du contraire, tu auras des problèmes. Et même quand il va se rendre compte que c'est même vrai, il va dire, pourquoi tu lui as dit ça toute ta vie? Pourquoi tu as détruit sa vie? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup de grands hommes ont été abattus, détruits par des mensonges. Par des mensonges. Regardez Joseph, il est allé en prison à cause de quoi? Le mensonge. Il y a certains mensonges qui vont te conduire en prison. Il y a certains enfants de Dieu qui vont mentir sur toi pour garder une authenticité de leur foi. Il y a beaucoup qui vont être inspirés par Satan, croyant être inspirés du diable et venir te combattre. Dieu m'a montré que tu es faux. Quand on m'a appelé, tu étais avec moi. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a dit quelque chose une fois, ça m'a fait sourire. Qu'il voit que l'onction de Dieu m'a quitté. Il a dit que, pardon, prends ton taxi, tu pars. Alléluia. Prends ton taxi, tu pars. Mon rôle n'est pas de te dire, de te raconter des conneries. Mon rôle, c'est de t'enseigner ça. Combat le bon combat. Ça, c'est le faux combat. Amen. Ça, c'est la distraction. Ça va te distraire de l'objectif. Ça va te distraire. Ça va pourrir ta vie. Pourrir ton discernement. Et tu ne pourras pas t'en sortir demain. Pourrir ton discernement. Pourrir ton discernement. Et sachez, bien-aimé, que dans la vie, les gens vont mentir sur toi. Et toi aussi, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas aussi mentir. Mais Jésus a dit à Pierre, tu vas mentir, tu vas me régner 3 fois aujourd'hui. Il y a des gens qui mentent par peur. Amen. Il y a des gens qui mentent par pression. À cause de la pression qu'on fait, ils mentent. Je dis, Seigneur, toi-même, tu vois, Seigneur, laisse-moi mentir le tout aussi. Je vais me repentir après. Alléluia. Il y en a d'autres qui mentent pour rien. Sans seulement qu'il doit mentir. Ça lui plaît le mensonge. Il n'aime pas la vérité. Il ment. Que Dieu t'en délivre. Que Dieu t'en délivre. Que l'Éternel t'en délivre. Alors, un dernier point. Amen. Une utilisation abusive du sexe. Amen. Les enfants là, les jeunes, les mamans, les papas, l'histoire là. Feu rouge. Ce n'est même pas la porte d'accès. C'est la barrière pour vivre des expériences les plus compliquées de ta vie. Amen. Quand tu n'es pas dans le bon timing. Regardez Samson. Il a connu toutes les frustrations de sa vie. Pourquoi? L'amour du sexe. Chercher les femmes chaque jour. On dit arrête. Il dit non, j'ai la foi, je suis Samson. Qu'est-ce que rien peut me faire? Ok, ça te détruit. Regardez Salomon, l'homme le plus sage de la terre. La fête à la Mikao. Il avait 1000 femmes. Chercher les femmes, tu regardes, tu ne peux pas laisser une petite fille passer. Tu ne peux pas laisser un petit garçon passer. Ton œil est tout derrière. Dieu a mis tes yeux sur, derrière ta tête ou devant. Alléluia. Sois concentré dans la vie. Amen. Sois concentré. Et tout cela, c'est une discipline personnelle. Alléluia. Sois discipliné. Si tu es discipliné dans cet aspect, tu seras une personne correct, qui sera tenu devant beaucoup de pressions de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, garde ces choses. Je termine avec trois choses qui te feront gagner les batailles de la vie. Trois choses, tout simplement. Première chose, courir la course de la vie avec sagesse. Courir la course de la vie avec sagesse et non avec émotion. Alléluia. Courir la course de la vie avec sagesse et non avec émotion. Bien-aimé, faites preuve de sagesse dans la vie. Ne t'empresse pas d'annoncer ton succès ou d'ouvrir des portes sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Ne t'engage pas dans des entreprises et des aventures inutiles. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Proverbe 3, le verset 13. Proverbe 3, le verset 13. Troisième chose à faire pour gagner ta bataille. Investis dans ta santé. Amen. Voilà, j'ai rejoint le docteur Armel. Investis dans ta santé. Investis dans ta santé, investis en soi, c'est notamment bien manger, rester en bonne santé et acquérir des connaissances nécessaires qui soutiendront ta vie et ta destinée. Traite-toi bien. Amen. Traite-toi bien. Car si tu quittes ce monde, la vie continue et d'autres personnes profiteront de ce pourquoi tu as travaillé. Allez demander à Morlam. Il a laissé l'os. Alléluia. C'est le voisin à qui il ne voulait pas qu'il mange l'os qui a mangé. Donc, cousin, alléluia. Vous voyez? Et bien manger n'est pas de manger tout ce que vous appelez bonnes choses. Alléluia. Oui. Il y a des choses simples que tu peux manger avec régularité et ça te fait du bien dans ta santé. On croit que la bonne vie, c'est la vie chère. C'est les choses chères. Les choses chères ont beaucoup de maladies, hein. Je vous assure, choses chères. Parce que les choses chères flattent nos sens. Et en général, ce qui flatte tes sens distrait tes sens de ce qui est important et implique en toi des mauvaises dispositions. Alléluia. Amen. Il y a des petites choses que tu peux manger à la maison, que tu peux arranger, tes petits légumes là. Ne néglige pas tes petits légumes là. Tu crois que c'est en mangeant le hamburger qui est rempli de calories pour les prédispositions à l'accident cardiovasculaire. Alléluia. Tu prends un shawarma. On prend farine, on met farine, on met le piment dedans, on ajoute farine. Mais sans vitamine. Donc, mange simplement. Ça va aller. Alléluia. Mange la banane mûre à la maison. Alléluia. Prends soin de ta santé. Et dernière chose à faire pour gagner les batailles. Vous savez, si tu ne prends pas soin de ta vie, de ta santé, il y a des batailles qui vont t'amener très tôt dans la tombe. Parce que tu auras une santé fébrile. Amen. Tu auras une santé fébrile. Donc, fais attention à ça. Troisième chose et dernière, n'hérite pas de la bataille d'un autre. Amen. N'hérite pas de la bataille d'un autre. Si tu dois aider les gens dans les moments de combat, veille à ne pas t'approprier leur bataille. Amen. Veille à ne pas t'approprier leur bataille. Il y a des gens, ils viennent, tu aides la personne, ça devient ton problème. Alléluia. Évite ça. Évite ça. Évite de porter les problèmes des gens sur ta tête. Évite de porter les situations des gens sur ta tête. Alléluia. Ne t'approprie pas leur bataille. Aide-les sans t'approprier leur combat. Aide-les sans hériter de leur combat. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi que tu sois victorieux dans toutes les batailles de ta vie au nom de Jésus. Que tu sois un gagnant et non un perdant au nom de Jésus. Que l'Éternel te libère sur toi ses forces, sa sagesse, son intelligence, ses capacités au nom de Jésus. Que devant les batailles de ta vie, que ton mental soit fort au nom de Jésus.